Bonjour, au sommaire aujourd'hui. Les talibans contrôlent désormais l'essentiel de l'aéroport de Kaboul. Les évacuations continuent tout de même, mais dans un grand chaos, des tirs ce matin. Le récit sur place, dans un instant. La ministre des Sports appelle à des sanctions après la bagarre générale pendant le match de foot Nice-Marseille hier. Des spectateurs sur la pelouse, des stadiers débordés. Enquête ouverte, les deux clubs sont convoqués mercredi. Il faut un parquet spécialisé dans la lutte contre la drogue à Marseille. Demande du maire de la ville, Benoît Payan. 3 nouveaux morts dans des règlements de compte ce week-end. Vacciner ou pas les enfants et comment? Y aura-t-il vraiment des cours à distance pour les non-vaccinés si un cas apparaît? À 10 jours de la rentrée, les parents d'élèves sont inquiets. En Israël, test sérologique pour les petits avant la rentrée. Et puis la météo de ce lundi 23 août, nuages dans le nord, soleil au sud, mais attention aux orages et au vent.
France Inter.
Crise humanitaire, sécuritaire, diplomatique, c'est le point le plus brûlant de l'actualité internationale en ce mois d'août. L'aéroport de Kaboul, 8 jours après la prise de la ville par les talibans. Notre confrère de RFI, Vincent Souriau, est sur place. Il est arrivé via le Qatar hier. Franck Madvon l'a joint ce matin.
Alors il faut distinguer deux choses, l'enceinte de l'aéroport et ses abords. Je vais commencer par l'enceinte de l'aéroport. À l'intérieur, c'est assez stable, ultra sécurisé par les troupes américaines et britanniques, avec des rotations d'avions qui se passent bien, en bonne intelligence, même s'il y a des appareils allemands, australiens, qataris, pour ceux qu'on a vus, ça a l'air de rouler avec des décollages et des atterrissages réguliers. En l'espace de 3 heures hier soir, il y a dû y avoir une douzaine de départs, avec à chaque fois une bonne centaine de personnes à bord. Et ce que disent les militaires américains, c'est que le rythme s'accélère, en particulier de nuit, mais que ce rythme d'évacuation les épuise et que c'est un facteur de tension supplémentaire. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'ils sont isolés en réalité. À ce jour, les Américains, avec l'aide des Turcs, des Britanniques et des Français, contrôlent certaines entrées de l'aéroport et le tarmac. Rien de plus. Dès que vous passez la porte, il y a les talibans, et avec leurs armes, avec leur matériel militaire, ils font bien comprendre à tout le monde, et en particulier aux forces étrangères, qu'ils sont chez eux et que ce sont eux les patrons. Ce qui veut dire que les troupes américaines sont en vase clos, ne sortent pas de l'aéroport parce que c'est trop dangereux, ils ne passent pas leur périmètre de sécurité.
Et que se passe-t-il aux abords de l'aéroport, à l'extérieur immédiat de l'aéroport ?
Alors le drame humanitaire se passe dans une zone contrôlée par les talibans, à proximité de l'aéroport, où des milliers de personnes font la course, une course désespérée pour passer les portes de l'aéroport dans des conditions dantesques. Des familles avec de très jeunes enfants qui s'entassent les uns contre les autres, dans une chaleur d'enfer, sans rien à manger ou à boire, parce que ils ont fui leur domicile le plus vite possible dans l'espoir de partir. Ils sont terrifiés d'être là, ils sont épuisés, et surtout il y a les talibans qui sont incontrôlables. À tout moment, ils peuvent tirer en l'air, ils peuvent mettre des coups de crosse, des coups de fouet, de manière arbitraire, à ces civils qui attendent pendant des jours. Et ces accès de colère provoquent des mouvements de foule meurtriers parce que les gens paniquent. Ce n'est pas une rumeur, il y a bel et bien eu plusieurs morts écrasés par la foule. Ce qui saute aux yeux, c'est que même si le nombre de vols augmente, la gestion des flux par les talibans, mais aussi par les Américains d'ailleurs, qui gardent les portes de l'aéroport à quelques mètres des talibans et qui sont très nerveux, cette gestion des flux est encore aujourd'hui catastrophique.
Et ce matin, il y a eu des échanges de tirs, des assaillants non identifiés, nous dit l'agence France Presse, un garde afghan tué, 3 autres personnes blessées, des soldats américains et allemands impliqués dans la fusillade. La Maison Blanche à Washington dit avoir évacué quelques 30 000 personnes depuis le 14 août. L'objectif est d'en exfiltrer 75 000 américains mais aussi afghans. La date du retrait définitif des américains, le 31 août, pourrait être décalée. Réunion virtuelle du G7 sur la situation en Afghanistan demain. Côté français, sur son compte Twitter, l'ambassadeur David Martinon affirme que les forces spéciales sont parvenues à faire entrer 260 collaborateurs de l'Union européenne dans l'aéroport de Kaboul pour les exfiltrer. Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, ministres des Affaires étrangères et de la Défense, iront sur la base d'Abu Dhabi pour rencontrer les personnels impliqués dans les opérations d'évacuation. Et puis à propos des réfugiés, la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse plaide pour qu'on privilégie l'accueil des personnes déplacées dans les pays voisins de l'Afghanistan. Au plan militaire, les talibans disent porter leur offensive dans la vallée du Panjshir, au nord-est de Kaboul, qui leur résiste encore. Quelles peuvent être les conséquences de cette victoire des talibans en Afghanistan? Le pays peut-il redevenir un sanctuaire pour les djihadistes ou les encourager, à tout le moins? Élément de réponse, puisé auprès de spécialistes, avec Clémence Pénard.
Symboliquement, leur triomphe permet de convaincre les djihadistes que leurs adversaires finiront par s'effondrer, comme l'explique Raffaello Pantucci, expert en terrorisme.
Vous avez un groupe qui se bat depuis 20 ans et qui a réussi à éjecter les États-Unis de leur pays. Si vous êtes un autre groupe djihadiste dans le monde, vous regardez ce qui se passe en Afghanistan et vous vous dites « ça fonctionne, Dieu rend gloire à ceux qui se battent en son nom ». Donc je pense que ça va sans aucun doute donner un énorme coup de boost à ces groupes à travers le monde.
Certains craignent aussi le renforcement de groupes djihadistes au sein même du pays. Mais selon Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité à l'IFRI, les talibans auront le souci de ne pas s'exposer inconsidérément.
Les talibans se souviennent évidemment du prix qu'ils ont payé pour avoir hébergé Oussama Ben Laden et Al-Qaïda dans les années 90 en les laissant planifier des attentats depuis leur propre sol. Ils ont certainement retenu cette leçon-là. La priorité des talibans aujourd'hui, c'est de pouvoir régner sur l'Afghanistan avant même d'honorer des solidarités internationales avec des groupes djihadistes tournés vers l'attaque de l'étranger.
La victoire talibane a tout de même été largement saluée par Al-Qaïda, qui maintient une forte présence en Afghanistan.
Objectif principal vu de Moscou, éviter tout débordement de l'islam radical en Asie centrale. C'est la solution pour laquelle plaide Vladimir Poutine en cette fin de matinée. Après les mois de crise provoqués par le Covid, les stades vides, les caisses pas mieux, les diffuseurs à la télévision qui se défaussent, le championnat de France de football avait besoin d'une reprise sereine. C'est raté. Dès la troisième journée, un match tourne à la bagarre générale et la justice ouvre une enquête, le parquet de Nice en l'occurrence, puisqu'il s'agit du match Nice-Marseille hier soir. 75e minute, au poteau de corner, le Marseillais Dimitri Payet reçoit une bouteille en plastique lancée depuis les tribunes. Il s'effondre et renvoie la bouteille. S'en suivent de longues minutes de bagarre. La sécurité débordée au stade de Nice, empoignade entre joueurs, supporters, stadiers, jusqu'entre les deux présidents de club en tribune. Au bout d'une heure et demie de confusion, la Ligue, qui organise le championnat, estime que les conditions sont réunies pour reprendre le match. Pas les Marseillais, qui ne se sont pas présentés sur le terrain. Et ce matin, colère froide de la ministre des Sports, Roxana Maracine, à nous.
Il est clair qu'une ligne rouge a été franchie. Il faut aujourd'hui que la Ligue, les responsables des clubs aussi, soient responsables et prennent les sanctions qui sont celles du bon sens, qui sont celles en accord avec ce qui se passe et ce qu'on voit sur les terrains. C'est inacceptable que des supporters balancent des objets, soient violents, pénètrent dans les stades. Nous, on s'est battu pour que le public revienne dans les stades, que les matchs ne se passent plus à huis clos. Si c'est pour voir ça, franchement, on est là pour faire du football. Si ces personnes sont pas capables de suivre un spectacle sportif, bah, ils peuvent le suivre devant leur télé et balancer des bouteilles devant leur télé s'ils veulent.
Propos recueillis par nos confrères de France Info, les deux clubs sont convoqués après-demain par la commission de discipline de la Ligue. Sachant qu'il y a évidemment beaucoup de caméras dans le stade de Nice, le parquet pourrait en dire plus sur l'enquête dans la journée. Bonjour Alexandre Vaux.
Bonjour Bruno.
Vous revenez de Nice. Au plan sportif, que risquent les deux clubs, Alexandre?
Alors écoutez, il faut savoir que c'est déjà la deuxième fois depuis le début de la saison que des joueurs marseillais sont pris pour cible. Depuis le match à Montpellier, il y a 15 jours, deux tribunes ont été fermées à titre conservatoire et deux personnes déférées devant la justice. Mais le match avait repris et était allé à son terme. Là, les joueurs marseillais, vous l'avez dit, ont refusé de revenir sur la pelouse hier soir. Si l'on s'en tient au règlement, l'OM a donc perdu sur tapis vert, victoire 3-0 pour Nice. Sauf qu'un tel scénario de match est sans précédent. L'OM a voulu marquer le coup, considérant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour reprendre. La Ligue va donc devoir trancher ce cas sans précédent et devra aussi sanctionner l'OGC Nice puisque, on le rappelle, vous l'avez dit, jet de projectile, envahissement du terrain. Là, le panel est connu. Amende, fermeture de tribune, voire match à huis clos, tout comme sanctionner aussi les joueurs et entraîneurs qu'on a vus sur les images impliquées dans la bagarre d'hier soir.
Aussi déplorables soient-elles, ces images se limitent à des échanges de coups de poing et de coups de pied. Dans les rues de Marseille, dans les quartiers que se disputent les trafiquants de drogue, le sang coule. Cet été encore 15 morts depuis le début de l'année. Un ado de 14 ans la semaine dernière et encore 3 jeunes hommes tués dans la nuit de samedi à dimanche. Ils avaient 25, 26 et 27 ans dans deux quartiers différents. Cité de la Marine Bleue et quartier des Chartreux. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est ce que demande sur France Info le maire de Marseille, Benoît Payan.
Il faut que l'État prenne la mesure de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe à Marseille? On a affaire à un crime organisé de niveau international. On a affaire à des trafics qui génèrent des millions d'euros par mois de bénéfices. Il faut que l'État crée un parquet spécial à Marseille. Il faut doter le parquet de moyens particuliers. La procureure de la République, elle fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas les moyens de taper fort. La justice à Marseille est sous-dotée. On ne tape pas des trafics de cette dimension-là avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur.
Un parquet spécial à Marseille, donc, pour lutter contre les trafics de drogue. Voilà la demande du maire socialiste Benoît Payan. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Spécialiste des questions de police à France Inter. Alors, ce n'est hélas pas la première année que l'on compte les morts du trafic de drogue dans la ville. Emmanuel, qu'est-ce qui existe aujourd'hui à Marseille? En quoi un parquet spécial changerait réellement la donne?
Eh bien, ce qui existe déjà, c'est une juridiction spécialisée sur la criminalité organisée. C'est même la deuxième de France avec des affaires hors normes qui concernent la Corse et Marseille. Donc, ces magistrats, il faut le savoir, ne prennent que les très gros dossiers. Pour tout le reste, et notamment de nombreux homicides, c'est le parquet classique à Marseille qui prend ça en charge. Et on sait que leur zone de compétence, c'est tout l'arc méditerranéen. C'est tellement énorme que ce sont les affaires générales qui traitent donc une large partie des dossiers stupes. Contrairement à Bobigny en Seine-Saint-Denis, où il y a une section spécialisée du parquet avec 9 magistrats, il n'y en a pas à Marseille. Il manque des magistrats en fait à tous les niveaux, nous confiait tout à l'heure un juge marseillais, et pas seulement au parquet, ça coince ensuite pour les procès. Une situation à ce point catastrophique qu'un audit est en cours depuis le mois de mars dernier. Il a été moins médiatisé qu'à Bobigny, où les magistrats s'étaient fortement mobilisés il y a 3 ans. Mais sur place, on attend évidemment avec impatience les conclusions. On explique notamment qu'après 2010, lors des vagues précédentes de fusillades, de règlements de comptes, les effectifs de police judiciaire ont fortement progressé, il y a eu des opérations majeures, mais derrière, ça n'a jamais suivi en termes d'effectifs côté magistrat pour traiter tout ça.
Et un déplacement du président de la République à Marseille est envisagé début septembre, par ailleurs dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Les massifs forestiers sont à nouveau interdits aux promeneurs aujourd'hui. La semaine dernière, le feu a fait 2 morts et détruit plus de 7000 hectares de forêt dans l'arrière-pays de Saint-Tropez. Le Covid, 2 gros points d'inquiétude dans des registres très différents ce début de semaine. L'outre-mer et en particulier la Polynésie. L'épidémie est décrite comme fulgurante par le haut commissaire de la République en Polynésie française. Vous trouverez les détails et les chiffres sur franceinter.fr. Et puis beaucoup de questions à propos de l'école. À 10 jours de la rentrée scolaire, le professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, était ce matin l'invité de France Inter avec son collègue virologue Bruno Lina.
Alors je pense qu'on est devant la situation la plus complexe qui nous attend pour l'automne, qui va être celle de l'école, parce que les modélisations qui ont été faites à l'Institut Pasteur ont montré que la moitié des nouvelles infections auront lieu chez les enfants à partir de l'automne. Hein. Donc, puisque c'est la population non vaccinée, comme le disait Bruno Lina. Et personne, en fait, n'a la vraie recette miracle pour empêcher et freiner complètement la circulation du virus dans les écoles.
Le professeur Fontanet au micro d'Hélène Roussel sur France Inter. Hier, le ministre de l'Éducation a précisé le protocole sanitaire dans les écoles, collèges et lycées. Pas de passe sanitaire, sauf en cas de sortie scolaire à partir du 30 septembre. Pour les plus de 12 ans, dans les lieux où ce passe est exigé, comme les musées, jusqu'à la 6e incluse, s'il y a un malade, la classe ferme, enseignement à distance. À partir de la 5e, seuls les non vaccinés restent à la maison. S'il y a un malade dans la classe, les autres peuvent assister aux cours. 55% des 12-17 ans ont reçu une première dose. Des campagnes de vaccination seront organisées dans les établissements ou des déplacements vers les centres, assure le ministre. Pas mal de questions restent tout de même ouvertes pour les parents d'élèves. Carla Dugo est la coprésidente de la Fédération FCPE.
La première question que se posent les parents, c'est bien sûr la question de la vaccination. Alors, est-ce qu'il faut vacciner nos enfants ou pas les vacciner? Puisque, en fait, effectivement, on lit beaucoup de choses qui sont parfois contradictoires. Donc, c'est bien normal que les parents se posent aussi cette question-là. Après, la deuxième inquiétude pour les parents, c'est justement les enfants qui ne sont pas vaccinés et qui peuvent, dans le second degré, être évincés, en fait, du cours si un cas contact se présente. Présents dans la classe. Les parents savent aussi par expérience que la continuité pédagogique n'existe pas, en fait elle ne fonctionne pas, car les enseignants ne peuvent pas faire cours en présentiel et en distanciel au même temps. Et en fait, les parents, enfin, savent très bien que les moyens n'ont jamais été déployés pour que les choses se fassent d'une façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus sécurisée en termes de santé. Et encore une fois, c'est aux parents de se débrouiller pour que les choses se passent au mieux.
Et à propos de la rentrée, regarde sur ce qui se passe en Israël. Une nouvelle mesure est mise en place avant la rentrée qui aura lieu mercredi de la semaine prochaine. Rappelons que dans le pays, un pass sanitaire est obligatoire dans les lieux publics à partir de 3 ans, on vaccine à partir de 12 ans. Pour l'école, elle sera ouverte à tous. S'il y a un cas positif dans la classe, ceux qui n'ont pas développé d'anticorps seront placés à l'isolement. Et Frédéric Mettezo, depuis hier, on procède à des tests sérologiques sur les enfants pour savoir justement s'ils ont eu le Covid ou non.
Une petite piqûre au doigt, comme pour mesurer le diabète, sera nécessaire et rien de plus. Les enfants qui n'ont pas d'anticorps seront acceptés à l'école, mais s'il y a un malade dans la classe, ils devront rentrer à la maison en quarantaine. Ceux qui ont les anticorps pourront rester en cours. 2 millions d'enfants de moins de 12 ans sont concernés. L'équivalent israélien du SAMU a ouvert 300 lieux de tests sérologiques dans tout le pays et cette opération géante est supervisée par les ministères de la Santé et de la Défense. L'école reprend donc le 1er septembre en Israël, mais avec les grandes fêtes juives 5 jours plus tard, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, la plupart des établissements refermeront leurs portes pour les vacances. La vraie rentrée sera donc pour la fin septembre. D'ici là, les autorités espèrent que la vague Delta aura été contenue grâce à une troisième dose de vaccin et à une quarantaine très stricte pour ceux qui rentrent de l'étranger. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
En France, voilà donc une nouvelle rentrée sous le signe du Covid pour le gouvernement. L'aspect sanitaire, la contestation des mesures prises, minoritaire, mais encore 175 000 personnes dans les rues de France un samedi de plein été, et les conséquences économiques. Cela dit, bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Sur ce terrain, Yael, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Le gouvernement peut faire valoir que les mesures prises permettent pour l'instant, de limiter les dégâts.
Oui, et les rentrées se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a pile un an, le gouvernement était rattrapé par l'urgence sanitaire. Il voulait faire sa rentrée sur la relance. La présentation du plan était décalée d'une semaine. Cette fois, on le maîtrise le calendrier, estime un proche de Jean Castex. À deux jours de la rentrée du MEDEF, l'exécutif veut faire souffler un vent d'optimisme. Pas de nouveaux variants en vue. Stagnation des contaminations, sauf en Outre-mer. Adhésion massive au vaccin. Et surtout, une économie qui retrouve des couleurs. La catastrophe annoncée n'aura pas lieu, affirme Bercy. Après le moins 8% de l'an dernier, la croissance atteindrait plus 6% cette année. Le quoi qu'il en coûte aura été efficace, plaide sur France 2 le ministre Bruno Le Maire.
Maintenant, notre nouvel objectif, c'est de retrouver le niveau d'avant-crise, non pas début 2022, comme je l'avais indiqué, mais fin 2021. C'est vraiment la preuve que toutes les décisions économiques que nous avions prises en début de quinquennat donnent leur plein effet aujourd'hui et nous permettent de retrouver du dynamisme.
Mais tout cela au prix d'une dette qui flambe et avec des samedis où les antipasses et antivax ont pris le relais des gilets jaunes, ni cocorico, ni autosatisfaction, prévient Matignon, car c'est toujours dans les moments d'embellie que chacun réclame une petite part du gâteau. Mais l'exécutif se félicite de l'inversion des courbes. L'adhésion au pass et au vaccin augmente. La participation aux manifs décline. Jean Castex a prévu 3 déplacements cette semaine et ce ne sera pas tout Covid comme l'an dernier.
Terminons avec une bande dessinée. Une bande dessinée qui raconte la vie de Madeleine Riffaut, poète, journaliste, correspondante de guerre et résistante. C'est cette période de son existence qui est relatée dans un roman graphique en 3 tomes. Le premier vient de sortir, il s'appelle La Rose dégoupillée. Cyril Ardaud, Madeleine Riffaut a 97 ans et elle raconte désormais inlassablement son histoire.
Ce premier tome raconte la jeunesse de Madeleine Riffaut, la mort de 3 camarades alors qu'elle n'a que 6 ans, la tuberculose, un viol et ses premiers pas dans la résistance à 17 ans. Aujourd'hui, elle admet, quelquefois, elle a eu peur.
Sinon, j'aurais pas été normale. Et j'ai perdu tout sentiment de peur quand j'ai échappé 3 fois à la fusillade.
Pour écrire le scénario de la BD, Jean-David Morvan a enregistré des centaines d'heures de conversations. L'histoire de Madeleine Riffaut est parfois très dure. Elle a été torturée, a failli mourir plusieurs fois.
J'ai compris qu'on pouvait tout raconter, mais qu'il fallait trouver de quelle manière le raconter pour que ça choque pas les gens et qu'ils referment pas le livre. Si on a des larmes dans les yeux, on peut plus lire, en fait. La difficulté est dans les choix. Il faut choisir ce qu'on veut raconter, quelle ligne directrice on veut suivre et où on veut emmener notre lecteur.
Après 50 ans de silence, c'est un autre résistant, Raymond Aubrac, qui a convaincu Madeleine Riffaut de parler en 1994. Suivent alors un livre, des témoignages dans des documentaires, des écoles et donc à présent une BD dont les dessins sont signés Dominique Bertaille.
J'avais assez précisément en tête ce que j'avais envie de faire, mais par contre j'ai soumis les storyboards à Madeleine pour voir si ça correspond à ce qui s'est passé. Je serais mal placé pour dire ce qu'elle en a vraiment pensé, mais je crois que ça lui plaît.
Les deux BDistes aimeraient raconter le reste de la vie de Madeleine qui ne s'est pas arrêtée à la résistance, mais a aussi connu 3 autres guerres et a rencontré Picasso ou encore l'homme d'État vietnamien Ho Chi Minh.
Et La Rose dégoupillée, c'est aux éditions Dupuis. Vous trouverez d'autres détails sur franceinter.fr.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Le programme du jour, Élodie, nuages au nord, petite pluie nord-est et soleil au sud.
Oui, du soleil du sud-ouest vers le sud des Alpes, la Méditerranée, la Corse. Mistral, tramontane et vent d'ouest sur la Corse soufflent jusqu'à 60 à 80 km à l'heure. En montagne, quelques averses possibles, un orage sur les Pyrénées et sur les mers Cantours. Et puis en allant vers le nord, eh bien on a plus de nuages, en particulier du centre Val-de-Loire et de la Franche-Comté vers les frontières du nord, en passant par la région parisienne avec quelques averses en prime. Comptez 20 à 22 degrés près de la Manche en cette saison, 23 degrés à Paris, à Bourges, 25 à Angers, à Grenoble, 27 à Toulouse, jusqu'à 32 à Montpellier. Et puis demain, on aura du soleil partout l'après-midi, mais ce sera orageux à l'est du Rhône.
Merci Élodie Calac, Météo France.